Voilà, François Gécouillard en compagnie de Sam et Alice. Bonjour.
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 Alors, dites-moi, c'est quoi votre... Vous venez d'arriver là pour la cinquième ou quatrième fois là, au Québec pour une autre petite tournée musicale. C'est quoi votre première impression là, sur le Canada, le Québec? Est-ce que c'est non, on va encore manger de la poutine? B, non, il fait encore froid? C, encore les maudits accents? C'est quoi votre première impression?
Non, nous, on est toujours super contents de revenir. La poutine, on a réussi à trouver autre chose. Donc, on se rattrape sur le reste. Mais ouais, donc c'est la quatrième fois qu'on vient. Et à chaque fois, c'est avec plaisir. Et on a prévu de revenir encore l'année prochaine.
C'est la première fois qu'on vient à une autre période que l'été. D'habitude, on vient l'été. Donc, on ne connaissait pas encore le froid. Donc, ça, c'est bien. Voilà, on découvre. On ne connaît pas encore la neige non plus. On a encore des choses à découvrir.
J'imagine que vous avez déjà vu la neige ailleurs là, parce que vous avez voyagé à travers le monde.
Oui, en fait, la neige, on l'a déjà vue, mais ici, apparemment, c'est chez nous, c'est ridicule, quoi.
Vous connaissez la neige quoi, suisse, quoi,
c'est... Voilà, c'est ça, ouais, les Alpes, mais c'est vrai qu'on nous parle tellement des mois et des mois entiers de neige, ça, on ne connaît pas du tout. Ouais.
J'ai appris aujourd'hui que vos parents, c'était des musiciens, et vous êtes évidemment une famille, c'est important de le dire, vous êtes deux frères, deux sœurs, tout ça comme une grande famille, et puis je voulais savoir... Pour, comme ça, continuer à faire un groupe ensemble pour bourlinguer à travers le monde comme ça, puis toujours travailler ensemble comme une grande famille, vos parents devaient être des gens très spéciaux. C'était des musiciens, mais parlez-nous un peu d'eux, là.
Je pense qu'ils ne sont pas particulièrement spéciaux. En fait, on a vécu normalement dans la banlieue parisienne. Et puis, notre père, en fait, était musicien avant. Après, il est devenu éducateur, donc c'est autre chose. Notre mère est institutrice, donc en fait, on vient d'une famille complètement ordinaire. Maintenant, c'est vrai qu'on a eu une éducation très libre. On a eu le droit de faire un peu ce qu'on veut quasiment tout le temps. Et puis, surtout quand on s'est lancé dans la musique, on n'avait que 15 ans, on voulait partir sur les routes. Nos parents nous ont dit « Ouais, pas de problème, allez-y ». Ils nous ont prêté la camionnette, en fait, c'était la leur, la première. Donc voilà, on était assez libres, quoi.
Vos parents vous faisaient confiance?
Oui, dès le début, ils nous ont fait confiance. On était vraiment, nous, assez persuadés que c'était ça qu'on voulait faire comme métier. Donc voilà, ils ont bien compris et ils n'ont pas insisté sur les études.
Justement, au point de vue de l'éducation, vos parents sont instituteurs, mais vous dites qu'ils vous ont enseigné de façon très libre. Est-ce que vous avez fait l'école publique ou qu'est-ce que vous avez fait comme éducation?
Oui, on a fait quand même l'école publique, tous les quatre. On a été jusqu'au lycée, enfin pas tous, mais presque. Et puis par contre, au moment où on a voulu faire autre chose, c'est-à-dire un peu voler de nos propres ailes, là, il n'y avait pas de souci, en fait. C'était... maintenant que vous avez appris la musique, vous avez appris ce que vous vouliez, maintenant il s'agit du concret, donc allez-y, quoi.
Et sinon, en dehors de ça, vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient comme musique exactement? Est-ce qu'ils s'étaient aussi inspirés de Renaud Brassens Ferré ou?
Pas ce qu'ils jouaient, mais par contre, c'est eux, vraiment, c'est les disques qu'on écoutait depuis gamin. Donc c'est vrai qu'on écoutait Renaud, Pierre Perret, Brassens, les trois que tu viens de citer surtout. Et puis voilà, ça nous a beaucoup influencé, beaucoup inspiré, ouais.
Est-ce que vos parents étaient des 68ards?
Non, même pas. C'était même pas des 68ards, même pas des ex-babacool. Même pas.
Et pas des communards non plus.
Non.
ça surprend un peu, ça. Écoutez, il y a deux chansons que je trouve qui m'ont particulièrement sidéré de votre œuvre. C'est « Grand-père » et aussi « La femme du guerrier », qui sont des chansons qui se ressemblent un peu dans le sens que c'est une histoire d'amour un peu dans un contexte guerrier. Mais ce qui m'a le plus impressionné dans ces deux chansons-là, c'est qu'en fait, vous faites l'apologie un peu de l'infidélité, dans quelque sorte, là, même si c'est pas tout à fait ça. Là. Mais bon, c'est j'aimerais ça savoir, parce que si on est habitué les histoires d'amour, c'est toujours, au contraire, on met en valeur la fidélité entre la femme et l'homme. Dans ces chansons-là, c'est plutôt l'inverse. Tu sais, on se quitte, on trouve, faut continuer la vie, il faut trouver peut-être un autre partenaire. J'aimerais ça savoir c'est quoi qui vous a conduit à faire cette chanson-là. Est-ce que c'était justement pour vous moquer des chansons d'amour traditionnelles?
Non, je pense que c'est pas ça, c'est plutôt, quand tu dis infidélité, en fait, c'est comme des chansons qui parlent de la guerre, c'est plutôt l'infidélité à la guerre. Donc, en gros, tu choisis la guerre ou tu choisis ta femme, mais si tu pars à la guerre, ben moi je suis ta femme, ben ciao quoi. C'était plutôt ça le sens de la chanson.
Mettons, ils désertent l'armée pour rester fidèles à leur copine. Là, ça va, mais à partir du moment qu'ils choisissent d'aller à la guerre...
Après, c'est des histoires inventées qui nous font marrer. Voilà, c'est pas forcément tout dans le concret. Dans le... Voilà,
surtout la chanson Grand-père, c'est surtout une chanson qui nous a fait marrer. Ouais. Plutôt que de se baser sur la vraie histoire, c'est plutôt une farce. Ouais. Femme du guerrier, c'est une chanson qui est très triste, ouais, par contre.
Mais c'est une chanson complètement inventée. Est-ce que vous n'êtes pas inspiré de vraies histoires? Par exemple, vous parlez de l'Ukraine. Est-ce que vous vous êtes inspiré de...
Non, justement, les gens pensaient qu'on avait des origines ukrainiennes, mais pas du tout. C'est, ça, c'est complètement inventé. C'est vrai que toutes ces histoires-là, ça part quand même de choses entendues à droite à gauche. Comme au début, on jouait beaucoup dans les bars. Bah, après le concert, on rencontre des gens, souvent des petites gens, on va dire. Et ça, c'est qui nous racontent un peu leur histoire et... Et c'est un petit peu un mélange de ces histoires-là qui nous donne l'inspiration pour écrire les chansons. Des petites histoires, des petites gens comme ça, souvent pas très gays, malheureusement.
Nostalgique. On parle de l'Ukraine, on parle peut-être un peu des Tziganes. Vous, définitivement, vous vous inspirez de ce monde-là. Est-ce que vous-même, vous avez déjà vécu avec des Tziganes ou...
On n'a pas vécu vraiment avec des Tziganes, on en connaît beaucoup. Par contre, nous, c'est la vie qui mène, qui nous plaît, donc on a... pendant quelques temps vécu un peu à leur manière, et puis on s'est acheté un chapiteau, on a fait des tournées sous chapiteau pendant des mois et des mois, c'est un peu la manière de voyager, de vivre comme ça sans avoir d'attache, qui nous a beaucoup plu, et leur musique surtout, leur musique nous a beaucoup inspiré et nous inspire encore.
Ça, Alice t'en parle du Lacho Drum, en fait, le chapiteau là. Ça, pouvez-vous nous en parler un peu? C'est un espèce de projet de scène itinérante là, si on veut.
Oui, c'est ça. L'idée, c'était de changer un peu de la tournée traditionnelle où on arrive dans une ville, on fait le concert et hop, le lendemain, on est déjà barré. Donc là, c'était vraiment... on se disait, on va arriver dans des endroits déjà où il n'y a pas forcément des belles salles de concert pour accueillir les groupes. Nous, on va monter la salle de concert et puis ça permet de rester une semaine, 10 jours au même endroit. Et donc, c'est plus du tout le même rapport avec les gens, avec la population locale, avec les groupes locaux qu'on essayait toujours de faire jouer. Ça n'a aucun rapport. C'était vraiment des vraies rencontres avec les gens et avec la population. Et du coup, des gens qui venaient au concert qui ne seraient pas forcément venus sinon.
En fait, c'est des endroits où vous allez à des endroits qu'il n'y a jamais de concert, dans le fond, grâce à ça. C'est bien ça, si j'ai bien compris?
C'est pas forcément ça, mais en tout cas, on crée une salle de concert là où avant, il n'y avait qu'un terrain vague. Donc, en tout cas, c'est vraiment une nouveauté quoi, pour les gens qui nous voient. On arrive avec des camions, on monte un chapiteau. Alors, au départ, ce qui est rigolo, c'est que les familles viennent parce qu'ils pensent qu'on a des animaux. Ils pensent qu'on est un cirque, donc ils cherchent les animaux. On dit non, c'est nous les animaux, coucou. Et finalement, ils s'intéressent et ils viennent au concert et c'est toujours très sympa.
Hier, j'ai rencontré des gens qui viennent d'une île, l'île d'Anticosti. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite île au large de la Gaspésie. Et eux, il y a un seul village sur cette île-là de 250 habitants, 239 pour être précis. Je me disais, est-ce que le Lacho Drum pourrait se rendre un jour à cet endroit-là, un endroit qui est dénué de tout équipement de musique, ni quoi que ce soit là.
Ce serait chouette. Par contre, le problème, c'est qu'un chapiteau, faut le trimballer après. Donc, il faut réussir à y aller, mais une fois qu'on y est, on y reste.
Sachant que ça coûte quand même assez cher, ça coûte plus cher qu'un voyage à Cuba, là, évidemment, on y repense à deux fois. Qui est Barbac?
Ah, qui est Barbac? Non, le nom, alors vraiment, le nom, c'était l'orgue de Barbarie, parce qu'on jouait dans la rue, on s'est dit, à un moment, il fallait trouver un nom, on jouait dans les bistrots, on n'avait pas de nom. Donc on a dit, allez vite, il faut trouver un nom. Alors, voilà, on a juste changé les mots, orgue de Barbarie, ogre de Barbac. Bon, c'est vrai qu'on aime bien la viande, allez, parce que Barbac, c'est la viande, c'est de l'argot, en fait, l'argot, un peu, donc la manière de parler, un peu la parisienne, comme ça, l'ancien parisien. Voilà, la barbac, c'est la viande un peu de mauvaise qualité. C'est un peu un langage prolétaire, un peu. On disait la barbac. Et les ogres, parce qu'on était tellement jeunes et on ressemblait pas du tout à des ogres, plutôt à des petits poussets. Et du coup, ce nom-là nous a fait rire parce que les gens qui nous connaissaient pas s'attendaient pas du tout à voir quatre jeunes avec l'accordéon, le violon et la flûte et tout ça. Ils s'attendaient plutôt à du hard rock. Quand on voit juste le nom comme ça, du coup, voilà, ça nous a fait rire.
Au sujet de la pièce « Terrain vague », vous avez fait une pièce comme ça qui pointe les travers de chaque région de la France avec en collaboration avec toutes sortes de groupes de chansons françaises. Et je voulais savoir, c'est une chanson qui s'apparente beaucoup à l'Hexagone. Je voulais savoir, est-ce que ça a été fait dans cet esprit-là?
Oui, c'est ça. Nous, en fait, on a beaucoup voyagé, mais surtout en France, hein, il faut dire. Et ce qui est rigolo en France, c'est qu'il y a une espèce d'esprit un peu de chauvin, de vrai chauvin, un peu partout. Alors ça nous fait rire, sauf quand des fois ça nous fait pas rire, parce que des fois c'est pas drôle. Mais en tout cas, les gens, à chaque fois qu'on va chez eux, ils nous disent « Ah, chez nous c'est super, chez nous c'est mieux que chez les autres. » Et partout, c'est mieux que chez les autres. Donc nous, comme on voyage partout, on s'est dit un jour, tiens, on va faire une chanson pour se moquer un peu de cet esprit-là.
En fait, je viens de réaliser, en t'entendant, Alice, qu'on pense à l'Hexagone, mais on pense aussi à les gens qui sont nés quelque part de Brassens. C'est en fait...
Ah oui, mais complètement, c'est cette chanson-là qui nous a inspiré ce truc-là. Et puis, c'était, comme elle disait, nos tournées à travers toute la France, où ça nous a bien fait rire d'entendre tous ces gens là, qui disaient que chez eux, c'était génial et qu'ailleurs, c'était tout nul.
Peut-être, justement, on parle de chansons françaises. Peut-être juste un mot sur... Je vous nomme un chanteur français qui est dans vos inspirations et vous dites quelques mots sur eux. Donc, par exemple, commençons par Renaud.
Ex-rebelle. Faut dire un mot, c'est ça?
Ouais. D'accord. Ouais, bah, c'est ça, en fait. Renaud, c'est une enfance, parce que qu'est-ce qu'on l'a écouté?
Pierre Perret?
La bonne bouffe.
Ouais, et Camion aussi, parce qu'on... En partant en vacances avec nos parents, dans le camion, on avait des heures et des heures de route. C'était Pierre Perret.
Pierre Perret, c'était l'homme de la route. C'est lui qui vous accompagnait dans la route. Vous avez travaillé aussi avec lui. Commencé à travailler avec lui.
Ah bah, c'était une super expérience, puisque comme disait Alice, on l'écoutait nous depuis qu'on était petit. Et le fait de le rencontrer, et comme je disais, bonne bouffe, c'est parce qu'il nous invitait plusieurs fois à manger et que c'est le meilleur. C'est le meilleur, allez.
C'était quoi sa spécialité?
À manger? Oh, il fait. En fait, il tue le cochon et puis il fait tout ce qui va avec. Voilà.
Waouh! Et sinon, un mot sur Bérurier Noir?
Ah ben là, c'est plutôt adolescence, justement, où là, vraiment, on a commencé à écouter cette musique. Et donc, les Bérus, c'était les meilleurs.
Ouais, c'est toute une période de notre vie, les Bérus. C'est tous nos copains. Avec tous les copains, on n'écoutait que ça, quoi.
Vous avez berlingué à travers le monde, vraiment. Je pense que vous êtes allé jusqu'en Asie, en Afrique, tout ça. Dites-nous, c'est quoi le pays le plus surprenant, le plus extraordinaire que vous avez vu là? J'imagine qu'il y en a plusieurs, là, mais essayez d'en trouver, disons, chacun un.
Alors, qu'est-ce qu'il y a comme pays complètement extraordinaire? En fait, on a été un peu en Afrique et en Asie. Alors, par exemple, en Birmanie, moi j'étais en Birmanie, dans le côté un petit peu trash. C'est un pays complètement extraordinaire. Ouais.
En quelle mesure?
Eh ben, parce que c'est magnifique, c'est très très beau et c'est très très doux, les gens sont doux. Par contre, c'est une dictature horrible et les gens sont complètement menottés. Donc c'est un pays qui est horrible, sauf que si t'as pas envie de le voir, bah, tu le vois pas. Donc voilà, on est dirigé du début à la fin, voilà, c'est un pays très particulier.
Et vous êtes allé là pour jouer, pour une tournée, ou c'était juste autre chose, pour autre chose?
C'était avec une association qui s'occupe de faire des spectacles en milieu défavorisé, donc c'était un spectacle de clown.
Clown sans frontières.
C'est ça, Clown sans frontières, en fait, on est parti en Birmanie. Ouais.
Un endroit où ils ont bien besoin d'arrêt. Et toi, un pays en particulier?
Alors, vite.
Pas le droit de dire la France.
Pas la France. Qu'est-ce qu'on a fait? Dernièrement, on a fait... Bon, c'est vrai dernièrement, on en a fait beaucoup. On a été plusieurs fois en Afrique. On a été en Mongolie et on a été aussi en Slovaquie. Alors la Slovaquie, on a été en fait accueillis par des tziganes là-bas, qui ont des conditions de vie très très difficiles. Et on a rencontré un groupe de... Donc un monsieur qui ramasse un peu tous les enfants comme ça, un peu perdus dans les villages tziganes. Enfin, c'est même plus des villages. En fait, les tziganes là-bas, comme beaucoup en Europe, se font rejeter des villes et ils les parquent dans des espèces de taudis en périphérie. Là, c'est en grande périphérie parce que c'est à 20-30 km de la ville pour vraiment être sûr qu'il soit tranquille. Et un monsieur qui ramasse tous les gamins comme ça et qui les fait chanter. Et on a travaillé avec eux. Donc on est parti une semaine avec eux comme ça. Il nous a montré vraiment ce qu'il faisait avec ses enfants. Et on les a enregistrés. Ça sortira sur un prochain disque. Là, on a fait une chanson avec eux. Avec cette Zigane de Slovaquie.
Wow. Ouais. Le pitch, c'est quoi le nom de l'album? J'ai un blanc là.
Alors Pitocha. Pitocha, c'est ça. Alors Pitocha 2, c'est un disque pour enfants qui sort. Et. C'est la suite du premier qu'on avait sorti il y a quelques années.
Il va même avoir une collaboration avec les Cowboys Fringants, si je ne m'abuse. Mais justement, parlons-en un peu encore des tziganes. C'est probablement avec les Juifs le peuple le plus ostracisé de toute l'histoire de l'humanité. Vous, justement, vous en avez rencontré plusieurs. Là, qu'est-ce que vous auriez à dire à ce sujet-là à propos des tziganes? Nous, au Canada, on ne les connaît pas beaucoup.
C'est vrai, on se demandait ici comment étaient perçus les tziganes, parce qu'en fait, ça doit être... sorte de légende, mais en fait chez nous les tziganes c'est vraiment autant en France, la musique est super écoutée. Tout le monde adore la musique tzigane. C'est même depuis 5-6 ans, c'est devenu à la mode. Donc dans les boîtes de nuit, carrément, on écoute de la musique tzigane, mais on y rajoute un beat un peu péchu pour danser. Donc la musique est très respectée. Par contre, les gens eux-mêmes sont pas du tout respectés. La plupart des mairies ne veulent pas les accueillir, alors qu'ils sont obligés normalement. Chaque mairie de plus de 5000 habitants doit avoir un terrain pour eux. Et la plupart des mairies préfèrent payer une amende plutôt que de les accueillir. Et alors quand on est parti dans les pays comme la Roumanie, la Pologne, etc., où on se dit qu'il va y avoir des tziganes et qu'on va les rencontrer et que ça va être chouette, et ben on se rend compte que le racisme est encore pire là-bas. Là-bas, carrément, c'est la racaille qu'il faut laisser crever, on s'en fiche, quoi. Donc c'est vraiment dur pour eux, la situation.
Bon, on va souhaiter bonne chance aux tziganes qui peuvent écouter peut-être cette entrevue-là. Mais justement... Avoir ça, là, avoir c'est peut-être cette cruauté à travers le monde, là, je veux dire, depuis que l'humanité existe, on dirait qu'on traîne toujours les mêmes problèmes, le racisme, la haine, tout ça. Vous, est-ce que vous avez pas le goût, est-ce que ça vous attriste pas, est-ce que vous avez pas le goût éventuellement de raccrocher, de dire ça sert à rien de faire de la musique, on arrête?
Ben non, raccrocher, non, au contraire, peut-être que... Nous, ça nous pousse à agir, alors à faire des petits projets à notre taille. Hein, c'est-à-dire que nous, on ne changera pas la face du monde. Par contre, on peut peut-être, si ce n'est nous, être heureux, rendre un peu aussi d'autres personnes heureuses et passer des bons moments ensemble, au moins faire des concerts, faire passer un peu des messages. Voilà, je pense que à ce niveau-là, on fait assez bien notre métier. Enfin, c'est-à-dire que ouais, on fait beaucoup de concerts et on essaye vraiment à chaque fois de... faire en sorte que ce soit des bons moments, qu'on discute avec les gens. L'année dernière, sur scène, on passait aussi des petites vidéos de par exemple, RESF, c'est un réseau en France qui essaye d'aider les sans-papiers. Donc, on profitait de nos concerts pour essayer de faire passer ce message aussi. Donc, voilà, c'est un peu d'espoir aussi.
Donc, il y a de l'espoir pour l'humanité.
Oui. Ah ouais, bah, de toute façon, c'est vrai qu'on... Au final, nos chansons sont souvent assez tristes et assez défaitistes. Par contre, dans le concret, dans notre vie, dans les gestes qu'on fait toute l'année et dans notre carrière, c'est le contraire. On y va, on a la pêche et on y va, on fait le plus de choses possible. On est boulimique de ça, d'avoir des projets, de partir. S'il faut aider des gens, hop, on n'est pas non plus neuf caritatifs parce qu'on fait de la musique, mais on est avant tout musicien. Mais quand on peut, on n'hésite pas une seule seconde.
Et sinon, c'est vrai, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que vous avez la vocation d'être carboneutre, ou comme les Cowboys Fringants, par exemple, quand ils font une tournée, ils vont planter des arbres là, par rapport à la pollution qu'ils ont générée. Est-ce que vous, c'est un objectif ou est-ce que...
Non, en fait, nous, ça c'est pas encore venu. Enfin, nous, ça se fait pas trop, ça. Par contre, je pense que étant un groupe de musique, effectivement, on consomme pas mal au niveau gasoil, ça c'est sûr, parce qu'on peut pas voyager sans dépenser à ce niveau-là. Mais je pense que dans la vie de tous les jours, on est quand même assez concernés et on fait tous nos petits gestes, même si, comme je disais tout à l'heure, c'est pas nous qui allons changer la face du monde.
Donc, on a déjà quand même commencé à embarquer dans le dossier peut-être plus militantisme des actes de Barbac. Vous, depuis 1997, vous faites de la musique, vous êtes absolument, vous gérez absolument tout, la distribution, la production des albums, l'enregistrement, absolument tout. Qu'est-ce que vous auriez à dire, par exemple, à un artiste qui cherche un label, qui cherche à être édité?
Alors, c'était pas forcément contre les labels au début qu'on a fait ce choix-là. C'était plutôt parce qu'on ne considérait pas faire le même métier. C'est-à-dire que nous, on fait ça, on disait tout à l'heure, on est frères et sœurs, on a envie de faire plein de choses tout le temps. Et quand on a envie de faire les choses, c'est tout de suite maintenant, et on réfléchit pas à des plans de carrière de 15 ans, de sortir l'album là parce que c'est mieux. Non, nous, on fait les choses comme ça. Donc ça pouvait pas correspondre avec un label, avec une major ou je sais pas quoi. C'était pas possible. Donc la seule solution pour nous, c'était de faire tout seul.
Voilà. Histoire d'aller à ça dans votre agenda, là, c'est-à-dire que.
Un autre rythme qui est assez spécial. Et puis, on a eu la chance de rencontrer tous les gens qui sont avec nous là en voyage, on forme une vraie équipe. Donc, il y a quelqu'un qui s'occupe d'organiser un peu les tournées, quelqu'un qui s'occupe de distribuer les disques, et puis voilà, il y a des techniciens. Tout ça, c'est une vraie bande, une vraie famille. de gens qui travaillent.
Parlons-en de votre équipe. Je veux dire, c'est pas des employés, là, c'est vraiment des amis. Là. C'est même, est-ce que c'est des gens de votre famille aussi? Ou peut-être qu'ils, en quelque sorte, font partie de votre famille. Hein?
C'est ça. En fait, c'est pas vraiment des gens de la famille, mais c'est tout comme... Parce qu'en fait, il y a quelques amis d'enfance. Par exemple, celui qui s'occupe vraiment du petit label qu'on s'est monté nous-mêmes, c'est un ami d'enfance. Et puis les autres, c'est des gens rencontrés sur la route au fur et à mesure. Et ça a été d'abord des amis avant de faire ce métier-là, parce que, par exemple, il y en a certains qui ont commencé leur métier avec nous, qui étaient peut-être régisseurs dans une salle, et puis finalement, qui sont partis faire un métier avec nous, et qui ont appris, en fait, quelque chose de nouveau avec nous. Donc, on s'est vraiment formés. Ça fait 15 ans qu'on est quasiment la même équipe. Enfin, il y a des petits changements quand il y en a qui veulent partir faire autre chose. Mais en gros, on est une équipe qui s'entend super bien et on continue notre route comme ça, quoi.
Et pourquoi vous faites ça exactement? Pourquoi est-ce que vous acceptez, vous travaillez seulement avec des amis? Pourquoi est-ce que, par exemple, vous ne feriez pas affaire avec un distributeur privé, par exemple?
Pour exactement ce que disait Sam tout à l'heure, c'est-à-dire que avec un distributeur, on a essayé sur les deux premiers albums, en fait. On a essayé, ça s'est assez bien passé, mais on s'est vite rendu compte que c'était pas fait pour nous. Nous, un distributeur ne peut pas nous suivre. Et même nous, on ne peut pas suivre un distributeur. Donc, on a décidé de monter notre propre distribution. Comme ça, on fait ce qu'on veut de A à Z. C'est vraiment une histoire d'être libre de A à Z, avec les contraintes que ça implique. Il y a aussi des contraintes, mais on a choisi ce chemin quand même.
Il n'y a pas une question aussi d'affinité avec les gens avec qui vous travaillez? De partager les mêmes valeurs, peut-être?
Oui, si, bien sûr. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'avec ces personnes-là, on sait qu'on a envie de faire la même chose. On a la même... les mêmes ambitions, c'est-à-dire que les ambitions ne sont pas forcément dans des chiffres, mais plutôt dans des projets. Et on s'entend très bien et on sait qu'on fait totalement confiance. Par exemple, il y en a un qui va gérer l'argent de quelque chose. Nous, on s'en fout, on ne regarde même pas parce qu'on se fait confiance de A à Z, quoi, avec ces gens-là.
Parlons un peu de votre méthode d'organisation. Là. Comment est-ce que vous faites ça? Mettons que vous voulez partir en tournée. Là, est-ce que vous faites une espèce d'assemblée où vous parlez tout en groupe comme ça, puis vous partagez les tâches? Comment ça fonctionne?
Oui, alors pour les projets, quand quelqu'un a une idée, ben on se réunit et puis il propose l'idée. Plus elle est folle, plus ça plaît à tout le monde. Et voilà, c'est vrai que des projets comme ça, on en a toujours plein. Alors que ce soit un disque pour enfants, que ce soit une tournée sous chapiteau, que ce soit de partir à l'étranger, que voilà, il y a des projets comme ça qui naissent tout le temps et puis on essaye de les faire au fur et à mesure. Là, on en a encore plein dans les bagages. Donc, c'est vrai que tout se décide en commun comme ça, ouais.
En commun. Mais est-ce que vous partagez les tâches, par exemple, je sais pas, là, on parlait tout à l'heure de finances, là, est-ce que c'est toujours la même personne qui s'en occupe, oui, ou est-ce que ça se promène?
Alors, c'est vrai que ce qu'on a créé finalement, c'est comme une petite entreprise familiale, mais c'est une vraie, parce qu'il faut que ça tienne la route. Tous les ans, il faut que ça se renouvelle, sinon ça se casse la gueule, hein, normal, comme toute petite entreprise. Donc, en effet, chacun a sa tâche. Alors, le gros barbu que tu as dû voir tout à l'heure, il a une tâche bien précise, qu'on appelle Dieu, puisque c'est lui qui chapeaute un peu tout. Donc, qui regarde que tout fonctionne bien. Et puis après, voilà, chacun a sa tâche pour les disques, pour la technique, bien sûr. Hein, chacun a son boulot bien précis. Et puis, il y a des personnes qui sont au bureau, en France, qui ne sont pas venues, et qui s'occupent plus des chiffres, voilà, de tout ce qu'il faut. Voilà, par exemple, il y a celui qui s'occupe des contacts avec les médias, qui est resté en France, et puis la fille qui s'occupe des chiffres, de la comptabilité, etc., qui est restée. Voilà.
Et c'est qui fait la vaisselle?
J'allais dire, on n'est pas une secte non plus, hein, parce que ça fait un peu clan, etc. Mais c'est pas un clan, en fait, c'est comme n'importe quel groupe, sauf que nous, on est autoproduits, quoi. Mais finalement, dans n'importe quel groupe, il y a un tourneur, il y a un manager, il y a un sonorisateur, etc., quoi. Nous, maintenant... la différence aussi, c'est que au tout début, c'est Sam qui trouvait les dates, et puis après, ça a été Chonchon. Maintenant, lui, il fait les éclairages. En fait, on est tous passés un peu partout jusqu'à ce que ça s'installe vraiment. Et maintenant, a priori, nous, on s'occupe quasiment plus que de la musique.
Et est-ce que vous êtes inspiré de je sais pas, des expériences autogérées en Europe, comme des squats ou je sais pas, des coops, des trucs comme ça?
Non, ce qui nous a, enfin oui, plus ou moins. D'ailleurs, on y jouait beaucoup au début dans ces lieux-là. Mais vraiment, ce qui nous a plutôt inspiré, c'est un esprit plutôt alternatif qui était dans les années 80. Donc, comme on parlait tout à l'heure des Berus, mais il y avait aussi la Mano Negra, tout ce qui était boucherie, production et tout ça. C'est plus ça, on les voyait partir, faire leur truc tout seul, partir en Amérique du Sud pour la Mano, ou même si c'était dans une maison de disques. Mais c'était, nous, comme on était ados, c'était, cet esprit-là de voyage, d'aventure et puis de d'indépendance et l'esprit alternatif, voilà, qui nous a mis sur cette voie-là. C'était vraiment ça.
Donc l'esprit alternatif, mais est-ce que vous avez quand même des penseurs ou des philosophes ou des gens comme ça qui vous inspirent ou pas du tout?
Ben, pour le groupe en lui-même, non, pas vraiment. Après, tous, on a nos idées sur la vie, sur ce qu'on... Enfin, voilà, on a aussi des grandes discussions entre nous, mais on suit pas vraiment un chemin. C'est vraiment selon l'inspiration du moment. On est vachement aussi dans la discussion, tous. Donc, quand il y en a un qui est pas d'accord, ben, c'est toujours... on fait 18 réunions par jour, quoi, par exemple. ouais, on est un groupe à réunion. Dès qu'il y a le moindre truc, bon, réunion, hop, et du coup on se retrouve tous et on discute et voilà, on boit un café et tout va bien.
Parce que, par exemple, vos inspirations en chanson française, on les connaît bien, mais en tant que je ne suis pas libertaire, on peut dire que c'est il n'y a pas de nom précis, là, il n'y a pas de...
Il y en a peut-être quelques-uns, mais enfin, on a peut-être lu quelques bouquins de Hubert Reeve ou de Albert Jacquard. Après, on écoute beaucoup Daniel Mermet, qui est une émission sur France Inter en France, voilà, où vraiment on trouve que ça correspond tout à fait avec nos idées. Une émission qui s'appelle Là-bas si j'y suis, qui parle, voilà, un peu de tous les problèmes sociaux qu'il y a en France et dans le monde entier d'ailleurs. Et voilà, c'est plutôt sur ce genre de sujet qu'on va se retrouver, mais c'est pas le thème du groupe. Voilà, c'est plutôt chacun entre nous, on aime bien les mêmes choses.
Sinon, c'est quoi vos livres de chevet là? Est-ce que vous avez vous partagez des lectures?
Ouais, on se fait passer les bouquins, ouais. Après, il y a le manager qui lit uniquement des polars, mais nous, on lit autre chose, tu vois. Chacun ses goûts. Mais oui, c'est vrai qu'on se fait passer nos bouquins. En ce moment, on est branchés sur on les a presque tous lus, je pense, les bouquins qui parlent du Rwanda, que ce soit des romans ou des bouquins historiques, parce qu'on en vient, en fait, on a été au Rwanda il y a quelques temps. Et du coup, voilà, en ce moment, on est branchés là-dessus, et puis après, ce sera autre chose.
Est-ce que vous avez lu le bouquin de Roméo Dallaire, « J'ai serré la main du diable »
Non, celui-là, je ne l'ai pas lu, mais comme dans les autres bouquins, il y a plein de références tout le temps. Donc, ouais.
Je vous conseille, c'est un bon bouquin. Sinon, on en a parlé tout à l'heure, vous avez dit que vous avez commencé à faire de la musique dans les squats, tout ça. Est-ce que vous avez déjà milité autrement que par la musique, ou dans des organisations, ou...
Autrement que par la musique, c'est une bonne question. Non, parce qu'en fait, on fait de la musique depuis tellement toujours que je crois que c'est notre manière de militer, ouais, depuis le début.
Non, ouais, la réponse est non, parce que c'est vrai que comme on a commencé la musique à l'adolescence et à faire ça tout de suite, du coup, c'était notre façon d'aller faire des concerts de soutien ou d'aller jouer dans ces lieux-là, notre façon de militer. Ça passe toujours par la musique, parce que c'est ça qu'on sait faire, donc... voilà, notre soutien, c'était ça, quoi, d'aller jouer chez eux.
On en a parlé tout à l'heure, vous avez dit que vous faites beaucoup de réunions. Vous êtes une famille, vous êtes deux frères, deux sœurs, constamment ensemble. Vous devez passer les journées entières constamment ensemble. Et il doit y avoir de temps à autre des chicanes. Comment est-ce que vous résolvez ça, les conflits?
Par des réunions, pardi. Non, en fait, des embrouilles, il y en a comme dans n'importe quelle fratrie ou dans n'importe quelle bande de copains, d'ailleurs. Sauf que nous on a un peu regardé aussi ce qui se passe dans les autres groupes et peut-être qu'il y en a moins justement chez nous des problèmes comme ça, des problèmes de peut-être d'ego ou des problèmes de voilà d'humeur. En général on arrive à les résoudre assez facilement, quoi. Peut-être que c'est le fait qu'on soit frère et sœur, ou peut-être que c'est le fait qu'on soit copain avec les autres et que du coup on se connaisse très très bien. Voilà, le but à la fin c'est que tout se passe bien et que tout finisse bien, donc des embrouilles il y en a quasiment plus.
C'est bien, l'essentiel c'est que ça descende, il y en a de moins en moins plutôt qu'il y en a de plus en plus. Maintenant, on célèbre les 20 ans de la chute du mur de Berlin. Vous, c'est quoi votre opinion là-dessus?
Qu'est-ce qu'on peut dire sur la chute du mur de Berlin? C'est cool, on en entend parler, on a des histoires tous les jours à la radio, J-1, J-2. Ouais. Non, ben voilà, c'était un... Après, moi je m'en rappelle vaguement, hein, parce qu'on était petits tous. Enfin, moi plus que toi. Et voilà, je pense que c'était un moment un peu inoubliable, mais voilà, moi j'avais 10 ans.
Vous avez fait des tournées à travers l'Europe, hein. Il y a quelques décennies, vous n'auriez jamais pu faire ça s'il y aurait eu encore le mur.
Et on est allé à Dresde juste après d'ailleurs, enfin quelques temps après, parce qu'on était jeunes quand ça s'est passé. Moi je me souviens, c'est vrai que je m'en souviens, mais j'étais petit. Je me souviens en tout cas de l'émotion qu'il y a eu en Europe ce jour-là. Et après, on a été à Dresde, qui est une ville d'Allemagne, qui est une ville de l'ex-Allemagne de l'Est. Et enfin, on voyait encore que les gens étaient très marqués. Alors maintenant, ça serait rigolo d'y retourner maintenant, ouais. Ouais, pour voir le changement.
On a rencontré un groupe de Berlin qui s'appelle les 17 Hippies. Alors, je sais pas s'ils ont déjà tourné ici. Ils tournent vraiment partout. Et eux, ils nous racontent un peu comment eux l'ont vécu. Parce que c'est vrai que nous, étant jeunes, on l'a vécu de loin. Mais eux, c'est vraiment une histoire carrément marquante. C'est une révolution. Et donc, dans ce groupe, il y en a que certains. Ils sont 17 en tout. Il y en a que 2 ou 3, je crois, qui venaient de Berlin-Est. Et du coup, c'est rigolo de voir un peu la différence de manière de vivre et de manière de penser, même. Chez les 3 qui viennent de Berlin-Est, quoi. C'est un vrai, c'est très marquant.
Justement, qu'est-ce qui est le plus différent, qu'est-ce qui
Ben, c'est-à-dire qu'il va, il va penser. Enfin, moi, je me souviens surtout du tromboniste qui est du coup très solitaire et qui est moins à s'exprimer. Ouais, voilà, qui s'exprime beaucoup moins et qui est moins extraverti en fait, parce que du coup, les autres. C'est la fête, c'est tout ça, alors que lui, il va être beaucoup plus sage et beaucoup plus réfléchi sur ceci, cela, la société.
Est-ce que les deux côtés du mur, est-ce que c'est des aussi grands buveurs ou assez...
ils boivent plus à l'ouest. Hein. Non, j'en sais rien.
Ça, c'est des préjugés de toute façon. Et bon, donc, l'entrevue tire à sa fin avec les ogres de Barbac. Peut-être un mot de la fin. Qu'est-ce que serait le monde parfait selon les ogres?
Vas-y, commence.
Ah, c'est dur, le monde parfait. Ouais, le monde parfait. Le monde parfait, qu'est-ce qu'on peut dire? Par exemple, bon, c'est un tout petit exemple et c'est un tout petit détail, mais là, sur le prochain disque qu'on fait, il y a une partie des sous qui vont revenir à la création d'une association Pitocha pour un monde de son, ça s'appelle. Et en fait, on va essayer de créer des projets dans des milieux défavorisés, c'est-à-dire des projets culturels, enfin surtout musicaux en fait. On va essayer d'aider les personnes qui ont envie soit de faire des groupes, soit même d'enregistrer dans des milieux où vraiment ils n'ont pas du tout les moyens. Donc pour l'instant, on va essayer de faire des choses comme ça. Et je pense que c'est un peu la vision qu'on a du monde pas parfait, mais qui commence à s'en approcher. C'est que, par exemple, voilà, quand on était donc au Rwanda il n'y a pas très longtemps, les petits jeunes qui font la musique et qui ont fait un groupe et qui chantent très bien, qui n'ont pas du tout l'occasion ni de jouer, ni de d'en vivre, alors on en est très très loin, mais au moins de pouvoir exporter un peu leur musique, de rencontrer d'autres musiciens, de faire des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui nous plairait vraiment si un jour ça devenait vraiment international et pas que pour les petits, entre guillemets, bourgeois français. Si ça pouvait être accessible à tous, quoi, ce serait chouette.
Donc, pour résumer, Alice, un monde parfait, c'est un monde où que tous les enfants jouent de la musique, dans le fond.
Par exemple, ce serait le début, quoi.
Le début d'un monde meilleur. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter pour terminer, pour les gens des Québécois?
Eh bien, on va dire qu'on aimerait bien vraiment revenir, mais plus longtemps, parce que là, c'est encore une courte période pour nous. Et ce qu'on aimerait maintenant, c'est visiter le Grand Canada. Parce que Montréal, ça y est, rue Sainte-Catherine, on connaît. On la connaît par cœur. Maintenant, voilà, on veut aller ailleurs. Donc, on espère bien revenir.
Je vous remercie beaucoup, Alice et Sam. À la prochaine. Merci.